Paris, 1h à Paris, minuit en temps universel.
Antoine Galen.
À la une, après 2 mois d'incarcération, le président sud-coréen Yoon Suk-yeol vient de sortir de prison. À Séoul, des milliers de manifestants dénoncent cette décision. Nous serons en Syrie où 745 civils alaouites ont été tués par les forces de sécurité et leurs alliés dans la région de Latakié, fief du président déchu Bachar al-Assad. Dans ce journal également, le 8 mars, synonyme de journée internationale des droits des femmes, mobilisation massive partout dans le monde pour dire stop à cette société patriarcale. En Iran, de plus en plus de femmes refusent de porter le voile islamique. Et puis, Donald Trump coupe les subventions à l'université de Columbia, l'une des plus prestigieuses du pays, accusée d'inaction face à des actes antisémites. Vous avez les titres ? Bienvenue. Nouveau rebondissement en Corée du Sud, le président Yoon Suk-yeol vient de sortir de prison. Ce vendredi, un tribunal de Séoul a annulé le mandat d'arrêt à son encontre. Le chef d'État est accusé de rébellion depuis la déclaration de la loi martiale le 3 décembre dernier. Une annonce qui intervient au moment où des milliers de manifestants protestaient contre l'annulation du mandat d'arrêt. Notre correspondante Camille Ruiz est allée les rencontrer.
Ils protestaient contre l'annulation d'un mandat d'arrêt. Les manifestants protestent maintenant contre la libération effective du président Yoon Suk-yeol. Car la nouvelle est tombée au beau milieu du rassemblement. Les procureurs ne feront pas appel de la décision prise par la cour du district central de Séoul hier. Celle-ci avait ordonné la libération du chef d'État suspendu. Yoon Suk a 66 ans. La manifestante agite sa pancarte sous le drone d'un militant qui prend des images du rassemblement.
Les procureurs ne font pas leur travail correctement. Je suis vraiment, vraiment désemparée. C'est un président qui a mené une insurrection. Comment pouvons-nous garder un tel chef d'État ? Ce n'est pas possible. Le peuple doit se débarrasser de lui.
Unmi a fait le trajet depuis le Japon pour venir protester contre l'annulation du mandat d'arrêt.
Yoon Suk-yeol est un criminel. Il doit faire l'objet d'une enquête et être destitué tout en étant emprisonné. Sinon, il va détruire les preuves.
Le principal parti d'opposition, le Parti démocrate, a fait part des mêmes inquiétudes. Son chef de file, Lee Jae-myung, a déclaré, je cite, « vouloir se battre jusqu'à la fin de cette insurrection ». Les Sud-Coréens attendent encore la décision de la Cour constitutionnelle qui pourrait décider de destituer définitivement le président suspendu. Camille Ruiz, Séoul, RFI.
En Birmanie, le chef de la junte birmane a annoncé la tenue d'élections en décembre ou janvier prochain. Les premières depuis le coup d'État qui a renversé le gouvernement élu d'Aung San Suu Kyi en février 2021. La junte avait ensuite lancé une répression sanglante contre toute dissidence et reporté à plusieurs reprises les élections. Les combats acharnés entre les forces de la junte et des groupes de rebelles ont tué plus de 6300 civils et provoqué le déplacement de plus de 3,5 millions de personnes.
RFI, la radio du monde.
Les pays européens saluent le plan arabe pour la reconstruction de Gaza, un plan adopté par l'Organisation de la coopération islamique qui représente le monde musulman. Une réponse au projet de Donald Trump qui veut prendre le contrôle du territoire palestinien et expulser ses habitants. Pendant ce temps, Israël est d'accord pour discuter avec les médiateurs internationaux de la poursuite de la trêve avec le Hamas en vigueur à Gaza depuis le 19 janvier. L'État hébreu va envoyer une délégation ce lundi à Doha. De son côté, le Hamas évoque des signaux positifs pour la poursuite de la trêve. En Syrie, la traque des soutiens de Bachar al-Assad vire au drame. 745 civils alaouites ont été tués par les forces de sécurité et leurs alliés dans la région de Latakié. Dernier bilan de l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Le président syrien Ahmad al-Shara accuse les puissances étrangères d'avoir orchestré ces attaques et affirme sa détermination à désarmer les factions impliquées. Les précisions de notre correspondant Mohamed Erami à Damas.
La situation sécuritaire reste instable dans les villes côtières syriennes. Elles ont été requalifiées en zone militaire par les autorités gouvernementales compétentes. Leur accès est désormais interdit sans autorisation de l'armée. Les commandements des opérations militaires ont également déclaré avoir pris le contrôle total des villes de Latakié et Tartous, tout en poursuivant les combattants qui continuent de mener des attaques sporadiques contre les forces de sécurité déployées sur place, ainsi que contre les bases militaires, les postes de police et les hôpitaux. Le nombre exact de morts résultant des opérations militaires reste flou et toutes les estimations proviennent de rapports d'organisations de défense des droits humains. J'ai tenté de contacter la direction de la sécurité de Latakié par téléphone, mais ils n'ont pas fourni de chiffres officiels sur le bilan des victimes. À Damas, on observe une augmentation notable des patrouilles et des points de contrôle contrôles sécuritaires dans les principales artères de la ville. À ces barrages, l'identité des personnes interceptées est vérifiée et leurs véhicules fouillés. Mohamed Erhami, Damas, RFI.
Et la France condamne avec la plus grande fermeté ces exactions et redit son attachement à une transition politique pacifique et inclusive. Journée internationale des droits des femmes en ce 8 mars, mobilisation massive partout dans le monde pour dire stop au féminicide. Dans le monde, une femme est tuée par un proche toutes les 10 minutes. En Iran, 31 femmes ont été exécutées l'an dernier, un chiffre sans précédent selon l'ONG Iran Human Rights. 2 ans et demi après la mort de Mahsa Amini, la répression est toujours présente, mais de plus en plus de femmes refusent de porter le voile islamique. Siavosh Ghazi à Téhéran.
Dans les rues de Téhéran, mais aussi des villes de province, on voit de plus en plus de femmes sans voile depuis le mouvement qui a suivi la mort en détention de Mahsa Amini en septembre 2022, qui avait été arrêtée pour mauvais respect du voile. Le pouvoir a du mal à imposer le voile islamique. Il y a 2 jours, lors d'une cérémonie à Téhéran pour le prix des décorateurs intérieurs, aucune femme ne portait le voile. La justice a convoqué les fautives, mais ce genre de scène se répète à l'envi dans les parcs, les restaurants, les cafés ou encore les concerts. Il y a quelques jours, une majorité de députés, 209 sur 299 du Parlement, contrôlés par les conservateurs, ont demandé la mise en application de la loi sur le voile qui durcit les peines pour les femmes mâles ou non voilées. Cela intervient alors qu'il existe déjà des mesures répressives, comme l'affirme Afsaneh, une jeune Iranienne dont la voiture a été immobilisée pendant 10 jours pour non-respect du voile.
Nous avons reçu 3 SMS d'avertissement pour non-respect du voile dans la voiture. Pour éviter de nous faire arrêter sur la route, nous sommes allés nous-mêmes au commissariat. Un soldat nous a accompagnés pour nous diriger vers un parking. La voiture a été immobilisée pendant 10 jours et après avoir payé une amende, mais aussi le prix du parking, nous avons pu récupérer notre voiture.
Malgré les mesures répressives, de plus en plus d'Iraniennes refusent de porter le voile en public, même si elles encourent des amendes. Siavosh Ghazi, Téhéran RFI.
En Iran, toujours, la lettre de Donald Trump pour négocier sur le nucléaire est-elle arrivée à Téhéran? Le guide suprême Ali Khamenei répond par la négative et fustige une politique d'intimidation. Le président américain avait menacé de s'en prendre militairement à l'Iran si le pays ne négociait pas son programme nucléaire. Retour des hostilités car en 2018, Donald Trump s'était retiré unilatéralement d'un accord international sur le nucléaire. Un accord que son pays avait pourtant conclu 3 ans plus tôt avec Téhéran. En représailles, l'Iran s'est progressivement détaché de ses engagements et a accéléré ses activités nucléaires. C'est une décision qui pourrait avoir de lourdes conséquences. Ce vendredi, le président américain a mis une de ses menaces de campagne à exécution. Donald Trump a décidé de supprimer avec effet immédiat une subvention de $400 millions à l'université privée new-yorkaise de Columbia, l'une des plus prestigieuses du pays, accusée d'inaction face à des actes antisémites. Et cette annonce pourrait bien être suivie par d'autres mesures, Romain Lemaresquier.
Certes, si l'on s'en tient au chiffre, $400 millions en moins, alors que les revenus de l'Université de Columbia étaient de plus de $6,5 milliards en 2024, cela ne semble pas mettre en péril la survie de cette université. Mais cette décision va avoir un impact non seulement pour les professeurs et les étudiants, mais également pour tous ceux qui bénéficient de la recherche essentielle sur des maladies et d'autres problèmes de santé publique, dénonce Lynn Pascarella, la présidente de l'Association américaine des universités. Donald Trump, qui n'a eu de cesse de dénoncer durant la campagne électorale l'inaction de certaines universités face aux étudiants pro-palestiniens, a donc mis sa menace à exécution et le choix de s'en prendre à l'université de Columbia n'est pas anodin puisque cette institution était devenue l'épicentre des manifestations pro-palestiniennes. La présidente par intérim de Columbia, dans un courriel adressé vendredi soir à l'ensemble de l'université, tente de tempérer et se dit prête à travailler avec le gouvernement fédéral pour répondre à ses préoccupations légitimes. Reste que cette annonce de Donald Trump démontre que la Maison-Blanche compte bien politiser l'enseignement, estime la présidente de l'Association américaine des universités, sachant que Donald Trump a réitéré ses menaces cette semaine, promettant de couper les fonds à toute université qui autoriserait des manifestations illégales.
Et un golf en Écosse appartenant à Donald Trump a été visé dans la nuit de vendredi à samedi par des militants pro-palestiniens. Gaza n'est pas à vendre, c'est ce qui a été peint en lettres capitales sur la pelouse. Dans un communiqué, le groupe Action Palestine, qui a revendiqué l'action, déclare rejeter la manière dont Donald Trump traite Gaza comme s'il s'agissait de sa propriété dont il peut disposer à sa guise. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi.